France Bleu, Bray Zizel.
La petite touche pour Adnan dans la surface de réparation.
Oui, Youssef ! Oui, Youssef ! L'ouverture du score ! Crochet le but !
2-0 pour Brest !
Ici, c'est Brest.
Et à 18h10, prenons donc la direction de l'Arena Café de Brest pour y retrouver en direct l'ami Thomas Lavaux. Bonsoir Thomas.
Bonsoir David, bonsoir tout le monde. Et donc comme tous les lundis soirs jusqu'à 19h, on va revenir sur le week-end sportif et notamment sur les prestations du Stade Brestois, l'équipe première qui a enregistré une deuxième défaite de suite avec une défaite 2-0 à Nîmes vendredi soir chez la Lanterne Rouge de la Ligue 2. Un match sur lequel on va revenir avec Johan Hartog, le gardien de but. Bonsoir Johan. Ce sera dans quelques minutes. Et puis pas mal d'interrogations autour de ce Stade Brestois après cette défaite. Est-ce qu'il faut craindre la suite de la saison? Car samedi, c'est le leader, Nancy, qui se rendra au stade Francis Leblay. Nancy qui écrase la Ligue 2. Il reste encore 18 matchs. Est-ce que vous vous faites du souci pour le Stade Brestois? Est-ce que vous croyez Brest capable de battre le leader, sachant que Brest est capable du meilleur comme du pire cette saison? Vous pouvez intervenir au 02 98 53 65 65. Et puis, on va aussi quand même retrouver un peu le sourire grâce aux U19 qui se sont qualifiés pour les 32e de finale de la Coupe Gambardella hier à Plougonvelin. Ils ont éliminé Nantes, vice-champion de France de la catégorie, devant quelques centaines de spectateurs. L'un des buteurs et l'un des espoirs du Stade Brestois, Mathis Jourdan, est avec nous. Bonsoir Mathis.
Bonsoir.
On commencera d'ailleurs l'émission avec vous. Dans quelques secondes, on évoquera aussi la Ligue 1, Guingamp qui arrache le match nul 0-0 à Marseille, Lorient qui fait 2 partout à Rennes après avoir pourtant mené 2-0 très tôt dans cette rencontre. Toutes les analyses, on parlera même foot, mais foot US. On découvrira le tonnerre de Brest. Il reprend le championnat dans 2 semaines, mais il a lancé depuis quelques jours une campagne de financement participatif pour améliorer ses conditions d'accueil, pour développer ce sport sur Brest. Je dis ce sport, mais je devrais plutôt dire ces sports, puisque c'est aussi un club de cheerleaders. On dit pom-pom girl en français, même si c'est un petit peu réducteur. Et puis comme tous les lundis soirs, des places à gagner pour le prochain match du Stade Brestois à Francis Leblay. 2 places en Arkéa pour le match de samedi contre Nancy, ce sera un peu plus tard dans l'émission. Et puis 2 places également pour aller assister au match de Coupe de France de handball féminin dans moins de 2 semaines à l'Arena entre Brest et le champion de France, Fleury-les-Aubrais. Voilà le sommaire jusqu'à 19h.
Ici, c'est Brest. Thomas Lavaux.
Voilà, comme promis, donc on va commencer, une fois n'est pas coutume, avec l'équipe des U19, les moins de 19 ans. C'est comme ça qu'on appelle dans le jargon. En fait, U19, ça veut dire under 19. Enfin, c'est du franglais, hein, moitié français, moitié anglais. Et donc, qualification de Brest hier après-midi, 2-1 à Plougonvelin contre Nantes. Mathis Jourdan, vous qui hier jouiez attaquant, hein.
Oui,
de cette formation. Vous pouvez jouer également sur l'aile gauche.
Gauche et droite, ouais.
Voilà, c'est polyvalent. On va revenir déjà sur le match en lui-même, cette qualification de 2-1 face à Nantes. Vous étiez mené 1-0 par Nantes qui est vice-champion de France U19, qui l'année dernière est la seule équipe en plus à avoir devancé Brest. Vous aviez terminé 2e de cette poule U19, et finalement que Nantes qui avait fini devant vous. Et vous renversez complètement la situation en deuxième mi-temps. Comment est-ce que tu l'expliques?
On a commencé le match avec des objectifs. La première mi-temps, ça s'est plutôt mal passé. Et à la mi-temps, on s'est tous rejoints au milieu du vestiaire et on s'est dit, bon les gars, maintenant il n'y a plus rien à perdre. 1-0, faut y aller, faut tout lâcher. Et puis ça nous a complètement libérés, le but. Et au final,
De l'égalisation, déjà, c'est après 2 minutes, même pas en deuxième mi-temps.
Ouais, quelques minutes, ouais.
Ouais. Et puis ensuite, il y a le deuxième but d'Abdallah à la 56e. Donc finalement, vous mettez 10 minutes à renverser la situation.
Ouais, ça allait assez vite, ouais.
Qu'est-ce que ça représente pour vous, le championnat? Toi, habituellement, bon, tu joues davantage avec l'équipe réserve en CFA2, mais là, tu es venu renforcer l'équipe des U19, comme Corentin Jacob, notamment. Qu'est-ce que ça peut représenter, la Coupe Gambardella? C'est un objectif en soi?
La Coupe Gambardella, c'est un peu un rêve d'aller le plus loin possible à chaque fois.
Parce que la finalité, c'est le Stade de France.
Tout à fait,
voilà. C'est le lever de rideau de la finale de la Coupe de France.
C'est ça, c'est un peu un rêve. C'est une coupe, en fait. C'est une sorte de coupe. Tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre. La preuve, ce week-end, Nantes était favori. On va pas se le cacher.
Surtout quand on parlait un peu avant l'émission, tu me disais que Nantes, on connaît la qualité de formation du FC Nantes, mais ils avaient sorti la grosse équipe. Eux aussi, ils étaient venus avec la grosse équipe.
Tout à fait, voilà. Ils avaient la grosse équipe. On a mis la meilleure équipe aussi possible. Donc maintenant, le match de dimanche était pour nous. Et tant mieux. Et on verra par la suite.
Vous êtes dans... Nantes et Brest, alors je dis vous, même si toi tu joues encore, je le répète, en CFA2, mais bon, c'est vrai que ce sont deux clubs qui se connaissent bien parce qu'ils sont dans la même poule, ce sont des poules géographiques, hein, les championnats U19 nationaux. Quelle part également, Mathis, dans cette victoire, tu donnes à l'ambiance? Il y avait quelques centaines de spectateurs hier à Plougonvelin, les associations de supporters étaient présentes, ils avaient prévu de venir, on en avait parlé en fin d'année, assister à ce match-là. Ils n'étaient pas présents face à Clermont en Ligue 2, mais ils étaient présents à ce match-là. Je crois qu'il y avait des navettes également pour emmener les spectateurs à Plougonvelin. Est-ce que tu dirais que cette ambiance-là, elle a joué un rôle vraiment dans cette qualification?
Ouais, elle a joué un très gros rôle. Hein. Même dans le discours du coach, on se devait pour eux de faire plus. Et puis, quand on gagne 2-1 et que t'entends tout le monde crier « Allez les gars, c'est toujours plus facile que de ne rien entendre, hein. C'est toujours plus plaisant. »
Toi qui as connu des sélections en équipe de France il y a quelques mois, est-ce que tu dirais quand même qu'hier tu as vécu, c'est l'un des plus beaux moments de ta carrière qui est encore naissante, hein. Tu es de la génération 97 je crois.
C'est ça, ouais. Ouais, je pense que ce match-là fait partie d'un des plus beaux moments de ma carrière, honnêtement, je pense. Ouais.
Alors, se sont également qualifiés hein, hier Plouvorne, vainqueur à Cholet. Petit exploit hein, pour Plouvorne, puisque Cholet était hiérarchiquement supérieur d'une division. Il y a également Saint-Brieuc, Vannes, le FC Lorient et la TA Rennes qui sont passés. Guingamp, le Stade Rennais et Dinan-Léon ont été éliminés. Le tirage au sort du 32e de finale, ce sera jeudi. Et puis, c'est encore un tirage au sort interrégional, quoi.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà, pourquoi pas un derby face à l'avant-garde de Plouvorne, qui est le petit poussé breton encore à ce stade de la compétition.
Ouais, ce serait très bien pour eux et pour nous. Après, ça reste aléatoire, on verra, il y a beaucoup d'équipes. Mais bon, si c'est eux, ce serait vraiment génial.
Alors si on parle un petit peu plus de toi, Mathis, t'as un contrat stagiaire pro, en fait, avec le Stade Brestois. On t'a vu deux fois la saison dernière avec l'équipe première, deux fois en Coupe de France, à Grasse, c'était au 7e tour, je crois, puis à Cholet, c'était au 8e tour ou 32e, je sais plus exactement. C'était peut-être même 16e de finale, je sais plus.
32e, je crois.
En tout cas, ça relève de l'anecdote, mais tu avais même été titulaire face à Cholet. Maintenant, ce qu'on peut te souhaiter, c'est pouvoir apparaître dans le groupe d'ici à la fin de saison. C'est ça ton objectif?
Mon objectif, c'est plus de faire une saison bien pleine en CFA2, de réussir, de bien progresser, et après de reprendre encore l'année prochaine avec les pros, signer pourquoi pas un contrat pro. Et voilà, pour l'instant, cette année, je suis plus dans une bonne saison en CFA2, prouver vraiment en CFA2 en équipe réserve. Si après je peux faire quelques apparitions en pro, pourquoi pas, je vais pas refuser.
Effectivement.
Mais c'est quand même le but d'être, de faire une bonne saison avec mes amis en CFA2.
C'est quoi la différence entre le CFA2 et les U19? U19, voilà, c'est une catégorie à part entière. CFA2, c'est un championnat senior. Est-ce que c'est plus physique? Est-ce qu'il y a quand même un temps d'adaptation nécessaire?
Ouais, il y a un temps d'adaptation. Après, en senior, il y a forcément plus d'impact physique. Et puis, les équipes adverses, elles gèrent mieux le temps fort et le temps faible. Alors qu'en U19, c'est tout le temps un peu temps fort. Et ça, au final.
Ah, c'est un championnat plus à deux vitesses. Quoi.
Voilà, c'est ça. Et donc, c'est plus agréable de jouer en senior quand même.
Bon, ben en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite à la fin de la saison. Le contrat stagiaire, il se termine à la fin de la saison.
Oui.
Ouais. Et puis, éventuellement, pourquoi pas enchaîner avec un contrat professionnel. Et puis, nous, c'est ce qu'on souhaite également, voir des joueurs formés au Stade Brestois. On déplore souvent qu'il n'y a pas de joueurs formés au Stade Brestois, pas assez dans l'effectif professionnel. Donc, effectivement, c'est tout ce qu'on te souhaite, mais bon, plus pour la saison prochaine, hein, tu nous disais. Merci beaucoup, Mathis. Ouais. Et puis bonne continuation à toi, que ce soit avec les U19 d'Éric Assadourian en 32e de finale, que ce soit également avec l'équipe réserve.
Merci beaucoup.
Et à très bientôt, Mathis. Et à 18h19, on va retrouver Johan Hartog, le gardien de but de l'équipe première du Stade Brestois, dans quelques secondes, juste le temps du premier jeu. Comme je vous le disais en titre, on a donc deux places à vous offrir en tribune Crédit Mutuel Arkéa pour la rencontre de samedi. À 14h, le Stade Brestois qui affrontera le leader, l'AS Nancy, Lorraine. Laurence attend vos appels au standard. Si vous êtes les deux premiers au standard, eh bien vous remportez ces deux places. Le numéro téléphone 02 98 53 65 65.
On joue ensemble au 02 98 53 65 65.
Allez, on parle de l'équipe première désormais, le Stade Brestois qui s'est donc incliné lors de la 20e journée de Ligue 2 vendredi soir sur la pelouse de Nîmes. Et on est avec celui qui a sans doute été le meilleur Brestois, qui a sans doute eu en tout cas le plus de travail vendredi soir, le gardien de but Johan Hartog. Johan, il y avait entraînement cet après-midi, je crois que c'était le premier hein, depuis ce match de Nîmes. Est-ce qu'entre les joueurs, vous vous êtes reparlé de cette rencontre pour faire le point sur ce qui n'avait pas pu fonctionner?
Si, comme d'habitude, on a discuté de ce qui allait pas et ce qu'on n'a pas fait pour essayer de remporter le match. Mais bon, après, ça reste des discussions de vestiaire. Donc voilà, on va pas trop s'attarder là-dessus. Mais voilà, il y a beaucoup de déceptions et on est un peu frustré par le résultat.
Alors je vous propose de le revivre, ce match tel que vous l'avez vécu vendredi soir sur France Bleu Brésil, et puis on l'analysera ensuite plus en profondeur avec Johan Hartog. Écoutez donc le résumé du match Nîmes-Brest que vous avez pu vivre vendredi soir sur France Bleu. Les Brestois vont essayer de réagir. La quatrième minute avec Brian Pelé pour Bruno Grougy. C'est pas mal l'appel de balle de Christian Batocchio dans la surface de réparation. Batocchio qui va passer Michel mais qui malheureusement ne va pas réussir à centrer. Il a poussé son ballon un petit peu trop loin. Est-ce que ce sera un 6 mètres? Est-ce que ce sera une touche pour Nîmes Olympique? Ce sera une touche pour Nîmes Olympique. Oh, Youssef Hanan qui va mettre le ballon dans le dos de Manu Pérez. Ça c'est bête et c'est un ballon. Récupération d'Ousmane Sissoko qui a un petit peu d'avance sur Baïssama Sanko. Ousmane Sissoko à grandes enjambées. Un crochet, la frappe, la parade de Johan Hartog pour mettre ce ballon en corner. Attention à Anthony Koura dans le dos de la défense, il rentre dans la surface de réparation. Le centre, la reprise de Mounier qui passe au-dessus. Comment il fait Mounier pour rater ça? Comment il fait? Toujours 0-0, c'est miraculeux. Hein. On joue depuis 19 minutes et 50 secondes et c'est miraculeux qu'on soit toujours à ce score de 0-0. Contre défavorable au Brestois, récupération Ripard à 25 mètres. Ripard pour Mounier, la frappe de Mounier et la bonne parade de Johan Hartog. Elle n'était pas spécialement dangereuse cette frappe de Mounier. Frappe, il l'a prise comme elle est venue. Il était à 20 mètres dans l'axe, il était marqué Mounier et il a mis le ballon sur Johan Hartog qui n'a eu qu'à se coucher. Oh attention, avec Lorenzi qui se fait éliminer, le tentative de 1-2, la frappe d'Anthony Koura et la parade de Johan Hartog. Oh Grégory Lorenzi qui s'est complètement fait éliminer par Anthony Koura, le 1-2 devant la cage de Johan Hartog, la belle remise de la part de Renaud Ripard et la frappe de l'extérieur du pied droit d'Anthony Koura. C'était cadré, c'était sous la barre, mais la belle envolée de Johan Hartog. Prend un ballon dans la surface de réparation pour Koura. Koura qui remet le ballon pour Mounier. Heureusement, le dégagement en catastrophe de Baïssama Sanko. La première incursion nîmoise dans la surface de réparation brestoise. Le dégagement catastrophe de Sanko, c'est peut-être pas terminé. Avec Ousmane Sissoko, le centre, deuxième poteau. Aucun Nîmois pour repousser ce ballon dans la cage. Ce sera un corner, ouais, ce sera un corner parce que ce ballon de Sissoko a été dévié par la tête de Simon Fallette. Deux énormes alertes là sur la cage du Stade Brestois en l'espace de 30 secondes à la 50e minute. Et ce sera encore un corner pour Nîmes Olympique à la 52e minute. Encore un corner tiré de la droite par TJ Savanier. Encore un fumigène dans les tribunes. TJ Savanier, ballon au point de pénalty, la tête et la parade de Johan Hartog qui va encore nous sauver sur ce coup-là. La tête d'Anthony Mounier. C'est un véritable danger hein, dans le jeu aérien. Kevin Mounier. Non, c'est pas le joueur de Ligue 1.
Il a joué avec Anthony Mounier, ils étaient tous les deux à Montpellier.
Alors attention quand même à ce coup franc, 30 mètres de la cage de Johan Hartog, dans l'axe, légèrement excentré sur la gauche. C'est pour TJ Savanier, ce qui va frapper directement. Il frappe directement, non, on va essayer de trouver une tête, la belle sortie de Johan Hartog qui boxe ce ballon, qui le remet sur Koura, la frappe de Koura. Et Ali Keïta et Simon Fallette qui jouent les sauveurs, qui empêchent ce ballon de rentrer dans le but. Allez, touche pour Nîmes Olympique avec Cordoval. Ballon dans le dos de la défense sur le côté droit pour Toifilou Maoulida face à Fallette. Maoulida pour Koura dans la surface de réparation. Ben le voilà le but. Le voilà. Et il est mérité. Bravo Nîmes Olympique. 69e minute de jeu. Et c'est Anthony Koura, bien servi par Toifilou Maoulida, qui contrôle dans la surface de réparation et qui enchaîne avec une frappe sous la barre transversale de Johan Hartog. Johan Hartog, il a déjà fait plusieurs miracles dans cette rencontre. Il ne peut pas non plus sortir les ballons indéfiniment. Youssef Hanan qui se fait devancer par Fethiarek. Fethiarek qui écarte pour son latéral droit. Le ballon pour Mounier, balle de 2 à 0. Ousmane Sissoko qui bute sur Johan Hartog. Il prend ce ballon avant d'éviter le 6 mètres. Le centre d'Ousmane Sissoko et Simon Fallette qui va sortir le ballon de la surface de réparation. Attention, le 2 à 0. Mounier qui bute sur Johan Hartog et qui derrière va mettre ce ballon à côté de la cage.
parce qu'il y avait la défense de Grégory Lorenzi. Il est furieux, Johan Hartog, parce que pour la deuxième fois en 3 minutes, il est obligé de jouer les sauveurs pour la deuxième fois depuis l'ouverture du score nîmoise. Les Brestois qui sont sauvés par leur gardien de but. On n'y est plus du tout. Toi, Filou Maoulida, il va s'enfermer sur le côté droit. Kevin Mounier, c'est très stupide, il est hors jeu de 3 mètres. Donc Maoulida est obligé de rejouer en retrait avec son latéral Cordoval. Mounier, il a beaucoup de choses à apprendre encore. Mais on arrive quand même à retrouver la Riazouni à 25 mètres de la cage, à 16 mètres. Frappe d'Azouni et 2-0. Frappe pied gauche de la Riazouni, pied gauche. Et avec l'aide de la barre transversale, la Riazouni qui tue ce match.
Ici, c'est Brest.
Johan Hartog, donc le gardien du Stade Brestois qu'on a beaucoup entendu dans ce résumé, qui est à mes côtés. À froid, Johan, pour analyser cette rencontre. C'est vrai qu'on a l'impression que Brest, vendredi soir, était peut-être pas armé pour répondre aux défis physiques que les Nîmois ont pu vous opposer. Alors je parle de défis physiques, mais également dans l'engagement. C'est une équipe qui joue sa survie en Ligue 2, Nîmes, qui va la jouer à chaque match. Et Brest était peut-être pas armé justement pour résister à ça.
Ouais, l'équipe de Nîmes, ils avaient faim, ils étaient plus agressifs et ça se sentait parce que voilà, ils sont dans le bas de tableau et voilà, ils donnent tout pour essayer de faire le maximum et puis ne pas regretter. Et puis voilà, nous, je pense qu'on était dans un certain confort. Et puis après, on pensait qu'on allait se rendre le match assez facilement, mais bon, là, on a vu que c'était pas le cas et qu'ils étaient au-dessus de nous.
Brest était dans un certain confort. Tu disais, voilà, c'est que bah, vous avez, on a mi-saison, mais vous n'avez pas grand-chose à perdre. Parce que même si Brest a du mal à enchaîner les victoires et les résultats positifs, la zone de relégation reste quand même assez loin. La zone et le podium également, c'était un peu éloigné vendredi soir. Mais voilà, il y a un certain confort, tu disais.
Non, je pense que c'est plus sur ce match-là, mais bon, après, généralement, nous, on est des compétiteurs, on a envie de gagner tous les matchs, même si ça se voit pas, mais voilà, on essaie de faire le meilleur possible pour essayer de nous rendre le match plus facilement, et puis mettre, si on doit mettre 3 buts, on les mettra, mais bon, après, comme j'ai dit, hein, ça a été un accident sur ce match-là, et puis voilà, on essaie de repartir de l'avant, et puis faire un meilleur résultat contre Nancy, même s'ils sont premiers au classement. Voilà, on a réussi à faire un bon match contre Metz à la maison, donc pourquoi pas réitérer la même chose face à Nancy.
On en reparlera dans quelques minutes du match qui vous attend donc samedi face au leader de cette Ligue 2. Mais le dernier déplacement de l'année 2015 à Evian-Thonon-Gaillard, vous aviez fait un match sérieux, vous étiez imposé 2-0. Evian-Thonon-Gaillard avait eu des occasions, mais bon, vous aviez quand même réussi un match, vous aviez quand même réussi à maîtriser ce match-là. Ça n'a pas été le cas à Nîmes. Et on a l'impression que, voilà, ces prestations en dents de scie, il n'y a pas forcément d'explication rationnelle. Est-ce que toi, tu en as une?
Franchement, j'en ai pas une spécialement, mais après, je pense que, je sais pas, je veux dire que. On pensait qu'on allait être au-dessus d'eux parce que c'était Nîmes et qu'ils étaient dans la zone rouge et puis voilà, que ça allait être peut-être facile. Donc je sais pas, je pense qu'on s'est mis ça dans la tête, mais après voilà, je suis pas dans la tête des autres, mais je pense qu'ils voulaient bien faire et que ça s'est pas passé. Donc après voilà, le résultat, c'est sur repartir de l'avant.
Comment est-ce qu'on gère une soirée comme ça, où on est toujours constamment sollicité? Est-ce que, voilà, comment, dans la tête, ça se passe un match comme ça? Il y avait également eu le match du Havre, où tu avais sorti plusieurs parades décisives. Comment est-ce que tu les vis, ces matchs?
On essaie de tout arrêter. Après, voilà. On n'est pas tout puissant pour tout avoir, mais après c'est sûr que là c'était différent et les mecs ont été costauds aussi, même si ça a été difficile sur la fin. Et ouais, là aussi ça a commencé un peu difficilement pour nous, parce que voilà, il y a eu Mounier qui était un bon joueur de tête, et Sissoko,
Kevin Mounier,
qui est assez rapide.
Et donc, Ousmane Sissoko, l'ailier gauche, voilà. Qui a touché énormément de ballons.
Ce qui fait que ça a été compliqué pour Greg et Simon. Ils ont essayé de faire le job, mais après, voilà, on est 11 sur le terrain. Et puis, même si voilà, on a des difficultés après à défendre, Et c'est même si j'ai du boulot, mais après, c'est pas grave. Tant qu'on essaie de tenir la tête hors de l'eau, ben voilà, on essaie de faire le maximum.
À 18h30 sur France Bleu Brésil, félicitations à Joël de Quimper qui a remporté les deux places pour aller voir le match Brest-Nancy samedi à 14h. On va faire une petite pause. Joanne, tu restes avec nous. Derrière, on parlera de ton statut de titulaire que tu as inauguré en début de saison. Et puis, on évoquera bien sûr la venue de Nancy à Francis Leblay samedi.
À Brest, de Pontanezen au Capucin, ma radio, c'est France Bleu Brésil. Tous les jours avec vous, les experts.
La naturopathie est une pratique qui vise avant tout à préserver le capital santé. Avec Laetitia Billon, notre experte naturopathe, nous nous pencherons sur votre oreiller pour vous donner toutes les clés afin d'améliorer votre sommeil au naturel. Posez vos questions sur la naturopathie ce mardi sur France Bleu Brésil dès 9h.
Exposition Matotti Infini, en ce moment au fond Hélène et Édouard Leclerc pour la culture à Landerneau. Découvrez la première rétrospective en France consacrée à l'œuvre de Lorenzo Matotti. Carnets, dessins, tableaux, planches originales. Près de 300 œuvres célèbres ou inédites. Une exposition qui permet de parcourir les différents chapitres d'un grand voyage introspectif placé sous le signe de l'imaginaire, de l'art de la composition et du pouvoir expressif de la couleur. Matotti Infini, jusqu'au 6 mars, au fond Hélène et Édouard Leclerc pour la culture à Landerneau.
Mes douleurs lombaires ? Depuis ma cure thermale à Amélie, c'est randonnée et sac à dos.
À Amélie-les-Bains en Roussillon, nous avons 18 jours pour soigner vos rhumatismes, soulager vos douleurs et réduire vos médicaments. 9 mois après leur cure, 74% des curistes interrogés ont augmenté leur niveau d'activité. Chaîne thermale du soleil agit naturellement pour votre santé.
Interrogez votre médecin et appelez au 0800 32 32 32. 0800 32 32 32 ou chaînethermale.fr.
France Bleu,
vous faites aimer le cinéma.
Pour la première ligne, on va écrire son nom et son prénom, capito? Allez.
Bienvenue dans la classe de Jean-Michel Burel, un instituteur pas comme les autres.
Bon, je leur ai dit, c'est pas ma maison, c'est votre école, vous venez comme vous voulez. Ils viennent, ils s'amusent, ils jouent.
Une personnalité unique et attachante.
J'ai toujours eu un côté un peu non-conformiste.
Mon maître d'école, une souriante et touchante leçon d'humanité, le 13 janvier au cinéma et sur francebleu.fr.
France Bleu Brésil, supporter du Stade Brestois.
Voilà, retour à l'Arena Café au port du Château à Brest à 18h32 et on est encore pour quelques minutes avec Johan Hartog, le gardien du Stade Brestois. Donc gardien titulaire depuis cette saison. T'as été intronisé entre guillemets titulaire assez tard puisque Alexis Thébault est parti quelques jours seulement avant le début de la saison et avant le premier match de la saison à Auxerre. Comment tu as vécu le fait d'être, je vais pas dire bombardé, mais en tout cas de te retrouver presque précipité gardien titulaire à quelques jours de la saison. Et comment t'as vécu également l'arrivée de Donovan Léon qui avait signé au lendemain de la clôture du mercato d'été. Tout ça, c'est des événements qu'il faut digérer.
Digérer, non. Ça va faire ma cinquième année. Je suis à Brest, donc.
Tu l'attendais ce moment où t'allais vraiment devenir numéro un.
Ben, je m'attendais à tout et voilà. Si ça arrivait pas, c'est la vie. C'est la vie de footballeur. Mais bon, après, c'est de la chance. Donc maintenant, intronisé, oui. Pendant la prépa, ça s'est super bien passé. Et
l'arrivée de Donovan, parce qu'on s'est dit, bah Donovan Léon, il sortait d'une finale de Coupe de France avec la JOCR, il avait une bonne expérience de la Ligue 2 avec la JOCR. On s'est dit, Johan n'assure pas, c'est presque un numéro 1 bis, Donovan. Dans un premier temps, voilà, ça t'a plus boosté ou plus mis la pression?
Ni l'un ni l'autre. J'essaie de faire le travail qu'on m'a appris depuis tout jeune. Et puis voilà. S'il y a des choix à faire, c'est le coach qui les prendra. Mais moi, j'essaie de donner un maximum sur le terrain. Et puis après, s'il décide que je suis pas assez bon à ce moment-là, ben je comprendrai. Mais j'essaie de donner le maximum.
Malgré tout, on sent que tu t'es plutôt bien fait à ton nouveau statut. Il y a vraiment des matchs où tu as fait gagner des points. Je parle notamment du match contre Le Havre, qu'on garde tous en tête, où Brest rentre avec un point du match nul, un 0-0, et où tu avais multiplié les parades. Quelle est la différence aujourd'hui entre le Johan Hartog du 11 janvier, celui que j'ai en face de moi, et celui qui avait débuté la saison à la toute fin du mois de juillet à Auxerre? Qu'est-ce que tu as appris de ces 6 mois?
Au tout début, vu que c'était ma première apparition au niveau de la saison en championnat.
T'avais déjà joué les 3 matchs de la dernière saison aussi.
Ouais, c'était pas pareil parce qu'Alexis était il était blessé. Voilà. Donc voilà, c'était jouer le tout pour le tout. Et puis voilà, mais là, en tant que titulaire, c'est un peu différent vu qu'il y a une certaine pression de bien faire. Et
Dans quel domaine justement tu as progressé? C'est la gestion de cette pression. On te sent peut-être également plus à l'aise, il y a plus d'automatisme avec la défense, de communication.
Ouais, c'est surtout ça, la communication et les automatismes entre les défenseurs et moi, et ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et donc voilà, il y a une certaine connexion. Et puis après, les mecs, ils me rassurent et j'essaie de leur redonner cette confiance qu'ils ont en moi. Et voilà, mais j'essaie de faire le boulot qu'ils attendent de moi. Et puis voilà, c'est tout.
Alors, le championnat reprend samedi, match décalé pour le Stade Brestois. Samedi à 14h, vous recevez à Francis Leblay, le leader de ce championnat, l'AS Nancy Lorraine. Et ce qui est paradoxal avec cette équipe, c'est que même si elle a livré un match complètement raté à Nîmes vendredi, on se dit, elle peut battre le leader, elle peut battre Nancy.
C'est sûr, dans ce championnat, tout peut arriver. On a vu déjà contre Metz, on menait 1-0, et puis ça se passait bien, on était costaud dans tous nos duels, dans la gestion du match et tout. Donc voilà, tout est possible. Donc Nancy, c'est sûr qu'à l'aller, on a eu un naufrage. On s'attendait pas à avoir une telle qualité devant nous.
Alors vous étiez réduit à 10 dès la 25e minute. Ouais. Carton rouge pour Eric Thiéby. Derrière, sur le coup franc, Nancy marque. Je sais plus si c'est le premier ou le deuxième. Mais vous rentrez au vestiaire avec le score de 3-0. Pour toi, Nancy, c'est les numéro 1 cette saison en Ligue 2.
De ce qu'on a vu sur les phases aller. Ouais, je pense qu'ils sont assez costauds dans leur jeu et on le voit bien. Puis voilà, après, comme j'ai dit, c'est une deuxième partie et puis on va essayer de faire mieux que ce qu'on a fait.
Selon toi, que peut viser ce Stade Brestois sur cette deuxième partie de saison?
Beaucoup mieux sur certains résultats. Donc voilà, essayer de gagner la plupart de nos matchs, que ce soit à la maison, et puis être plus costaud à l'extérieur aussi. Donc voilà.
Est-ce que le match de Nîmes véhicule pas quand même une certaine forme d'inquiétude?
Non, je dirais pas ça. L'inquiétude, non. Voilà, c'est comme je dis, il y a souvent des accidents, mais bon, après, c'est se remettre en route et puis être plus costaud que ça, et puis voilà, travailler plus dur, et puis ça fonctionnera.
Cette équipe de Nancy, revenons à ce match samedi à 14h. Cette équipe de Nancy, son atout numéro 1. Il y a beaucoup de joueurs qui ont du ballon. Je pense à Robic, qui avait sans doute été le meilleur nancéen. C'est un ailier au match aller. Mais il y a également Youssouf Hadji, l'attaquant, qui est un joueur à l'expérience longue comme le bras. Son atout numéro 1, selon toi?
Il se fait oublier, je dirais, Youssouf Hadji, ce qui fait que voilà.
La science du placement.
Voilà, il se déplace beaucoup, il se fait oublier, puis après sur un centre, on le voit devant le but ou là où il faut pas, genre en retrait pour recevoir le ballon. Donc voilà, il est un peu partout dès que le ballon arrive dans la surface. Donc c'est à surveiller et d'autres joueurs aussi, les milieux de terrain c'est aussi pas mal. Voilà, ils sont très costauds défensivement et offensivement et ils jouent beaucoup sur les côtés, donc ça va assez rapidement aussi.
Pour conclure cette interview, Johan, le dernier match à domicile c'était particulier parce que c'était la plus forte affluence de 2015 à Francis Leblay. Il y avait eu beaucoup de personnes invitées mais les associations de supporters n'étaient pas là. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux supporters du Stade Brestois qui sont peut-être un peu agacés par cette inconstance cette saison et en prévision de ce match de samedi?
Je sais qu'ils nous soutiennent beaucoup, donc je comprends leur frustration, qu'ils attendaient beaucoup qu'on soit un peu plus haut au classement. et par rapport à la qualité de jeu aussi. Donc je dirais pas de nous donner la patience qu'il faut, mais de continuer à nous soutenir, même si c'est difficile et qu'ils ont un peu d'énervement, mais je comprends. Mais voilà, ce serait bien qu'ils continuent à nous soutenir et à mettre l'ambiance comme ils font généralement, et qu'ils continuent à donner de la voix.
En tout cas, bon, Johan, rendez-vous samedi, 14h, sur la pelouse de Francis Leblay, donc pour ce match face à Nancy, face au leader. Et donc, ce sera à suivre à partir de 14h, le coup d'envoi, et puis l'avant-match également sur France Bleu, Brice Hizel, comme vous en avez l'habitude, avec le Stade Brestois. Merci beaucoup, Johan.
Merci.
À très bientôt. Bonne fin de saison.
C'est gentil.
Également avec le Stade Brestois. Et qu'on continuera de suivre, bien sûr, sur France Bleu. On va faire une petite pause musicale. Et puis ensuite, on parlera de Ligue 1. On vous fera gagner des places pour aller assister à une belle rencontre de handball féminin, de Coupe de France de handball féminin entre le Brest-Bretagne Handball et le champion de France. Et puis, on terminera en évoquant le football américain. Voilà le programme jusqu'à 19h. En attendant, pause musicale dans cette Ici, c'est Brest. Castle in the Snow, c'était The Avener sur France Bleu Brise Isel.
Ici, c'est Brest.
18h45, on va parler de Ligue 1 et l'En-Avant de Guingamp qui a stoppé hier soir sa série de défaites en Ligue 1. En Avant a fait match nul 0-0 à Marseille hier soir en clôture de la 20e journée. C'était pas un très grand match, c'est peu de le dire. Et Guingamp s'arrête donc à 5 défaites de rang en championnat. Un match très très pauvre en occasion de but. Guingamp n'a cadré qu'un seul tir durant tout le match. C'était une sorte de centre-tir de Jakobsen tout à la fin de la rencontre. Guingamp qui, dans l'ensemble, a été dominé par des Marseillais heureusement pas du tout inspiré et au final on a presque des regrets avec ce 0-0 puisque l'arbitre Freddy Fautrel a oublié de siffler un pénalty en avant sur Jimmy Briand en première mi-temps et parce qu'il aurait également dû expulser le Marseillais Rolando, défenseur central en seconde période. Avec ce match nul, En Avant reste 19e de Ligue 1 à un point du premier non relégable. Reims, écoutez l'analyse du capitaine guingampais Lionel Matisse.
Ne serait-ce qu'un point à l'extérieur, c'est bien, on est satisfait de ce point-là. On savait qu'ils étaient en difficulté face à des blocs bas et qu'à domicile, ils ont plus de mal à faire le jeu. Il ne faut pas leur laisser d'espace, c'est ce qu'on a fait et ça a très bien marché. Ils n'ont jamais réussi à nous mettre vraiment en danger. Bon, quelques coups de pied arrêtés, cette barre notamment, mais il n'y a pas eu le feu dans notre surface. Un peu de regret, il y en a toujours un petit peu quand à la dernière seconde on peut marquer. Le regret, ça reste ce pénalty qui n'est pas sifflé, parce que je suis sûr qu'à l'inverse, il l'est. Voilà, c'est embêtant que les décisions arbitrales soient toujours contre nous. Le regret est déjà là-dessus, ça aurait dû être sifflé.
Alors ce match, même s'il a été quand même dans l'ensemble très triste, il restera quand même dans l'histoire puisque les abonnés de Canal+, la chaîne qui retransmettait la rencontre en direct, ont attribué la note de 5,25 sur 20. C'est la pire note attribuée depuis la création du Canal Football Club, l'émission qui débriefe les rencontres après match. Écoutez Jocelyn Gourvennec, l'entraîneur d'En Avant de Guingamp, qui a réagi à cette note de 5,25 sur 20.
Je pense qu'il y a énormément de supporters marseillais partout en France qui étaient déçus du match de Marseille et du 0-0 pour un premier match contre une équipe relégable qu'on est. Une équipe qui reçoit, qui se crée qu'une seule occasion, c'est une contre-performance. Mais pour l'entraîneur que je suis et l'entraîneur adverse, j'ai la faiblesse de penser aussi qu'on y est un peu pour quelque chose parce qu'on a extrêmement bien défendu sur Diarra, sur Batshuayi, même sur Nkoudou et ils se sont retrouvés à court de solutions. Bon, on savait qu'ils avaient du mal à manœuvrer. Et c'est, je pense, le fait qu'ils viennent vraiment buter sur nous qui explique que les gens se sont sans doute embêtés à regarder le match. Sur notre stratégie et sur ce qu'on a voulu mettre en place, on a été extrêmement rigoureux. On ne pouvait pas dissocier ce match-là de ce qui s'était passé au mois de décembre. On a totalement dévissé en championnat en passant de la 10e à la 18e place. C'était important de mettre fin à une série de défaites. On aurait pu, si le sort avait voulu, prendre 3 points. Alors ça n'aurait pas donné 5, ça aurait donné peut-être 3 ou 4 en note, ça aurait été pire.
Les programmes chargés pour En Avant cette semaine. Mercredi 18h45, quart de finale de Coupe de la Ligue contre Lille. En cas de victoire, les Guingampais se retrouveraient à nouveau à 90 minutes du Stade de France. Et puis en championnat, Guingamp qui est toujours 19e, ex aequo cependant avec le 18e Toulouse. Guingamp reçoit Nantes samedi. Alors de leur côté, les joueurs du FC Lorient sont 9e de Ligue 1 après leur match nul de partout à Rennes samedi soir. Il y a eu du spectacle dans cette rencontre puisque les 4 buts ont été inscrits en première mi-temps. Premier but, un contre son camp du Rennais Fallou Diagne à la 4e minute. Puis Majid Waris, très bon, mais touché malgré tout samedi soir, blessé samedi soir. Majid Waris a inscrit son premier but depuis son retour de suspension à la 22e. La moitié de la mi-temps n'était pas atteinte que Lorient menait déjà 2-0. Mais Rennes a relevé la tête. Dembélé et Boga, le joueur prêté par Chelsea, ont égalisé avant la pause. Écoutez l'analyse de Sylvain Ripoll, l'entraîneur lorientais.
C'est le fait de ne pas être rentré au vestiaire à la mi-temps en menant en score. Parce que je pense qu'au vu de la première mi-temps, rentrer à 2-2, c'était difficile pour nous. Après, le match s'est rééquilibré. Je pense même que Rennes a pris le dessus en deuxième mi-temps. Mais on a su rester solide et prendre un point qui est important. Les regrets, c'est sur la première mi-temps. Parce que c'est vrai qu'on a réussi une bonne première mi-temps sur le plan collectif. Et si on avait su préserver ces deux buts, au moins un d'avance, mais notamment les deux buts à la pause, je pense que le match aurait été différent. Donc c'est des choses aussi qu'on doit dans le futur apprendre à faire, parce que là on peut pas faire tout un match pied au plancher, et par moment il y a besoin de maîtriser les choses, prendre moins de risques, sentir les coups, quand est-ce qu'il faut y aller, quand est-ce qu'il ne faut pas y aller. Et j'ai eu l'impression qu'on voulait aller sur tous les coups.
Et le petit événement de la soirée de samedi, c'était le retour de Johan Gourcuff, le natif de Pleumeur, blessé depuis près de 10 mois, qui avait signé à Rennes en début de saison, est entré en jeu pour le dernier quart d'heure de jeu. Et ça s'est passé très moyennement, on va dire, pour Johan Gourcuff, qui a eu à essuyer sur sa cheville le tacle d'un de ses coéquipiers. Tacle involontaire, bien sûr, de Cheikh Mbeng. Écoutez ce que disait son entraîneur au Stade Rennais, Philippe Montagnier, après la rencontre.
On savait qu'il avait 15-20 minutes dans les jambes, donc qu'on pourrait l'utiliser. Après, ça dépendait un petit peu de la partie. Ouais, si on veut un rythme élevé, pour l'instant, je pense qu'on va y aller progressivement. Oui, basé à cette qualité technique qui va nous apporter de fluidité dans le jeu, puis de ne pas perdre les ballons, puis de servir bien ses partenaires.
Vous avez entendu l'ovation du stade ?
Ça doit lui faire plaisir. Il sent qu'il est aimé et apprécié dans le club et puis dans tout ce qui est supporter et puis dans Rennes. Donc je pense que c'est bien de manifester ça. Il le mérite puisque c'est vraiment quelqu'un de bien.
Et les Merlus qui rejouent dès demain soir 21h avec là aussi un quart de finale de la Coupe de la Ligue à disputer sur la pelouse de Bordeaux et puis retour au championnat dimanche avec la réception de Monaco au Moustoir à partir de 14h. Il est 18h50. Le deuxième jeu dans cette ici c'est Brest, le dernier de cette émission, et on a quand même deux jolies places à vous offrir pour une rencontre des huitièmes de finale de la Coupe de France féminine de handball avec le Brest-Bretagne Handball qui est co-leader de son championnat de deuxième division et qui affrontera ni plus ni moins que le champion de France, Fleury-les-Aubrais. Donc lors de ces huitièmes de finale de la Coupe de France, ce sera dans un petit peu moins de deux semaines. Ce sera le 23 janvier, si je dis pas de bêtises, à l'Arena. Et on vous propose bien sûr d'y aller, comme tout à l'heure, hein, si vous êtes le premier à joindre Laurence au standard, au 02 98 53 65 65, 02 98 53 65 65, et bien France Bleu Braise-Izel vous invite à aller voir cette rencontre.
On joue ensemble au 02 98 53 65 65.
Allez, dernier invité dans cette ici, c'est Brest, il nous attend au téléphone, c'est Christophe Dedon. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Vous êtes le président du Tonnerre de Brest. C'est une association qui regroupe en fait deux sports. On va dire le premier, c'est le foot US. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle les cheerleaders en fait. Alors voilà. Tout à l'heure, j'ai présenté ça comme étant les pom-pom girls, mais c'est peut-être un petit peu réducteur, non ?
C'est réducteur, mais bon voilà, c'est le terme est plus connu sous ce nom-là en France, même si c'est pas tout à fait la même activité. Les pom-pom girls ont plus l'habitude d'animer des matchs au bord du terrain en faisant des figures ou ce qu'on appelle des routines, c'est-à-dire des chants d'encouragement. Le cheerleading, c'est une discipline à part entière qui va mélanger la danse, la gymnastique rythmique avec des portées, voilà, plusieurs figures sur un rythme assez soutenu, sur une musique rapide, on va dire.
Et d'ailleurs, en fait, c'est une compétition, c'est une discipline sportive à part entière, puisqu'il y a des divisions, un peu comme dans les autres disciplines sportives, et Brest est en première division.
C'est ça, exactement. C'est une discipline qui est en plein développement en France depuis quelques années déjà, qui s'est structurée autour d'un championnat, donc avec un tournoi de qualification qui lui se fait par zone géographique en France, et puis chaque vainqueur de ce tournoi qualificatif est regroupé après sur un tournoi national qui fait office de finale.
Alors Christophe Dedon, président du Tonnerre de Brest, si on vous reçoit, c'est parce qu'il y a une double actualité. Vous allez reprendre le championnat à domicile dans deux semaines, je crois. On aura l'occasion d'y revenir. Mais vous avez également lancé depuis quelques jours une campagne de financement participatif. Vous avez un nouveau stade. Je crois que c'est le seul stade homologué avec un traçage homologué pour le football américain dans la région Bretagne.
C'est ça, en taille, traçage et puis équipement des poteaux spécifiques au football américain, oui.
Voilà, parce que c'est pas tout à fait en fait comme des poteaux de rugby. Hein. Il y a juste une barre verticale centrale, puis ensuite qui sert de soutien pour deux barres parallèles.
Voilà. C'est en forme de Y, alors que les poteaux de rugby sont en forme de H.
Et vous, bah vous souhaitez améliorer également les conditions d'accueil de vos spectateurs dans ce stade qui est tout neuf, ou presque. Et vous avez lancé donc une campagne de financement participatif, comme je vous le disais. Et pour le moment, je crois que vous avez recueilli en promesse de dons à peu près la moitié de ce que vous espériez.
C'est ça. On a un petit peu plus de la moitié. On a lancé cette campagne un petit peu avant les fêtes de fin d'année. L'idée, comme vous le disiez, voilà, on joue depuis le printemps l'année dernière dans ce tout nouveau stade qui a été mis à disposition par la Marine nationale et puis la ville de Brest. Donc un bel écrin qu'on souhaite faire évoluer pour nos matchs à domicile, hein, que ce soit sur les catégories seniors ou juniors, sur les championnats de France, les différents championnats sur lesquels on joue. Aujourd'hui,
l'équipe senior est en 3e division. Hein.
Voilà, exactement, qui est en championnat de France de 3e division. Donc l'idée, on commence à avoir un public qui nous suit de plus en plus, qui fait extrêmement plaisir. On oscille entre 130 et 150 personnes à chaque match à domicile. Et l'idée, on souhaite les accueillir comme il se doit, dans de très bonnes conditions, leur permettre de pouvoir suivre le match un petit peu comme s'ils étaient dans un vrai stade qu'on connaît plus en France sur les stades de foot ou de rugby, voire pourquoi pas comme si c'était à la maison. Donc voilà, l'objet de cette campagne de financement, de collecte, sur lequel on est à peu près à la moitié de notre objectif de départ.
Alors pour retrouver le lien, pour si vous êtes intéressé pour faire un don, vous tapez Tonnerre de Brest, Ulule, parce que c'est une campagne menée sur la plateforme Ulule, U-L-U-L-E, comme ça se prononce. Et puis voilà, sur votre moteur de recherche préféré sur Internet, vous tomberez très facilement dessus. Alors, un dernier mot, Christophe Dedon, pour terminer. C'est vrai que ce nouveau stade, ce stade de la Marine, est-ce que ça peut également être le déclencheur de nouvelles ambitions pour le Tonnerre de Brest? Vous êtes en 3e division et je crois que vous recevez Cholet dans 15 jours. Avec ce nouvel écrin, vous espérez peut-être aller voir plus haut?
On l'espère. Alors Cholet, c'est dans 3 semaines. Le 31 janvier.
Ouais.
On commence notre championnat à l'extérieur cette année, le dimanche d'avant, le 24 à Angers. Effectivement, oui, le stade en lui-même fait partie d'un objectif à plus long terme sur le club. On va attaquer notre 6e exercice en division 3. Et voilà, comme toute structure sportive et comme tout sportif qui se doit, on regarde toujours devant. Et donc l'objectif est effectivement à court moyen terme de pouvoir être titré sur la division 3, puis pourquoi pas dans les années à venir évoluer en division 2. Et puis voilà, continuer notre marche en avant tranquillement mais sûrement.
Mais en tout cas, c'est vrai qu'on vous invite à découvrir cette discipline. Alors, ces disciplines, le football américain, qui est un sport extrêmement tactique, puis également le cheerleading. Mais les deux sont liés. Christophe Dedon, en tout cas, président du Tonnerre de Brest. Merci beaucoup, Christophe. Bonne soirée à vous.
Merci à vous. Bonne soirée. À bientôt.
À très bientôt. 18h57. Quelques promos. Et puis ensuite, on reviendra pour conclure cette Ici c'est Brest avec tous les rendez-vous sport de la semaine sur France Bleu Braise Zizel.
Ici, c'est Brest. Thomas Lavaux.
France Bleu.
Lundi 23 mai 2016, à l'Olympia à Paris, France Bleu soutient le concert anniversaire des 70 ans de l'association Les Petits Frères des Pauvres. Rendez-vous à l'Olympia avec un superbe plateau d'artistes, avec entre autres Stanislas,
Julie Zenati,
Joyce Jonathan,
Dave,
Nicoletta,
Angoun.
Lundi 23 mai 2016, à l'Olympia à Paris, venez fêter avec nous, les petits frères des pauvres. Place disponible dans les lieux habituels.
Un événement France Bleu, en partenariat avec la chaîne Mélodie. Toutes les infos sur francebleu.fr.
France Bleu. 18h58, le temps pour moi de remercier Olivier Crépé et Alain Gauthier qui étaient à la réalisation de cette émission, de féliciter Joël de Quimper qui ira donc assister à la rencontre de Ligue 2 de football samedi entre Brest et Nancy, mais également Guy de Landerneau qui a remporté les deux places pour la rencontre de Coupe de France féminine de handball à l'Arena dans 2 semaines entre Brest et Fleury-les-Aubrais. Et le temps pour moi maintenant de, juste avant de passer la parole à Clémence Oubigou, de vous donner les rendez-vous sport de cette semaine sur France Bleu Breizh Izel. Samedi, deux rencontres à vivre en direct et en intégralité. Donc à 14h, à la 21e journée de Ligue 2, le Stade Brestois qui va essayer de se refaire un peu la cerise en affrontant le leader, l'AS Nancy-Lorraine. Et puis à partir de 20h, la rencontre entre Guingamp et le FC Nantes. Guingamp aussi qui doit l'emporter pour sortir de la zone de relégation en championnat. Et puis on se donnera également rendez-vous dimanche à partir de 14h, match décalé pour la 21e journée de Ligue 1 pour les Merlus qui affronteront l'AS Monaco, une équipe de haut de classement. Les Merlus qui eux veulent s'ancrer dans cette première moitié de classement. Clémence Oubigou, bonsoir.
Allô, alors je suis là, je vous entends de loin, je suis en train de mettre mon casque. Alors attendez une petite seconde, Thomas, ça va venir.
Enlevez-moi le nœud là qu'il y a sur le casque.
Sinon moi je suis là.
Parce que voilà, avec mon casque je vous entends mieux. Ça y est, c'est réglé, j'avais un petit souci de casque. Mais tout va bien.
Il faut passer au casque sans fil là.
Ouais, ben oui.
Wireless.
Ouais, on devrait essayer, mais on verra.